9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. Au programme La France recomposée, Le Corbeau et la douceur. Je reçois Jérôme Fourquet, l'auteur de L'Archipel français, pour son nouveau livre La France sous nos yeux. L'historien des animaux, Michel Pastoureau, après Le loup et le taureau, il consacre une histoire culturelle au corbeau. Et Sophie Fontanelle, qui publie Capitale de la douceur, ça se passe à l'île du Levant, paradis naturiste où les corps vont nus au soleil depuis presque un siècle.
Europe 1.
Bonjour Jérôme Fourquet.
Bonjour.
Vous êtes directeur du département opinion de l'IFOP. L'archipel français est devenu une référence depuis 2 ans. Et à présent, vous publiez avec le journaliste Jean-Laurent Casly au Seuil, La France sous nos yeux, 500 pages pour décrire un pays qui s'est recomposé depuis une quarantaine d'années, depuis le milieu des années 80 environ. Avez-vous été surpris par ce que vous avez découvert ?
Oui, bien sûr. Alors, ce qui nous a beaucoup marqué avec Jean-Laurent Casly, c'est la rapidité et la profondeur des métamorphoses et des transformations qui se sont effectuées en l'espace d'une quarantaine d'années. Alors, on les a vécues, puisque nous sommes des quadras, mais quand on prend un peu de recul et qu'on dézoome, on est stupéfait par l'ampleur de la mutation et de cette métamorphose dans tous les domaines de la vie sociale et culturelle.
Alors notre modèle économique, par exemple, vous dites qu'il privilégie désormais la consommation, les loisirs et les services. Résultat, le secteur primaire s'est réduit considérablement. Dans les sondages, les agriculteurs ont disparu.
Voilà, donc, quand on interroge les fameux échantillons représentatifs, c'est 1000 personnes. Moi, j'ai commencé dans les sondages il y a 25 ans. Donc, dans ces 1000 personnes, on avait encore une quarantaine d'agriculteurs. Et donc, on pouvait analyser les résultats des agriculteurs. Aujourd'hui, on en a une douzaine, une quinzaine. Et statistiquement, ils ont été, sans jeu de mots, rayés de la carte, effacés, puisqu'ils ne pèsent plus suffisamment dans l'ensemble de l'échantillon.
Et dans les ports de pêche, les chalutiers ont été remplacés par les bateaux de plaisance.
Alors ça aussi, quand on parle de la désindustrialisation, c'est aussi d'autres phénomènes de recul de la production, notamment sur ces littoraux, avec la flotte de pêche qui a été divisée par 2 en l'espace de 25 ans. Et c'est frappant à l'œil nu quand vous regardez des cartes postales ou des photos de certains ports de plaisance. La part dévolue justement aux vedettes, aux bateaux, aux catamarans a considérablement explosé. Il reste souvent 2 ou 3 bateaux de pêche isolés en bout de quai, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans seulement.
Jérôme Fourquet, est-ce qu'on est devenu un pays touristique au même titre que la Grèce ?
Alors, on peut se poser la question, et on fait référence souvent dans ce livre aux ouvrages de Michel Houellebecq. Et donc, on est un peu le Houellebecquistan, c'est-à-dire qu'il reste 10% de l'activité autour de l'industrie. Et l'essentiel de nos activités économiques aujourd'hui sont concentrées sur le tourisme, la consommation, les loisirs. S'il fallait retenir un moment symbolique du basculement, ce serait le printemps 1992. Le 31 mars 1992, c'est la fermeture définitive des usines Renault de Billancourt, symbole s'il en est de la citadelle ouvrière. Et 12 jours plus tard, le 12 avril, inauguration d'Euro Disney. Et donc, on est passé d'un modèle à un autre.
Et autrefois, on se voyait comme un pays touristique, au sens où on avait des palaces, des très grands restaurants, on avait la Côte d'Azur. Mais quelle est l'influence aujourd'hui du tourisme low cost ?
Alors, on peut dire que les compagnies type EasyJet ou Ryanair ont redessiné la carte de France et ont joué le rôle qu'avait joué la Datar dans les années gaullistes, gaulliennes des années 60. C'est-à-dire que, encore une fois, Houellebecq, dans un passage savoureux, explique que Beauvais et Carcassonne sont devenues des villes touristiques et ils se demandent si elles sont devenues touristiques parce que EasyJet les a choisies comme point de chute ou si elles étaient touristiques et c'est la raison pour laquelle EasyJet les a choisies. On voit comment ce tourisme reconfigure l'intégralité du paysage national avec notamment ce qu'on appelait la course à la mer, une très forte pression démographique sur les littoraux. Alors ce qui est nouveau, c'est que cette dimension touristique, eh bien aujourd'hui, elle concerne toutes les, j'allais dire, les compartiments de la vie. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement les touristes qui vont au bord de mer, ce sont les retraités, les cadres en télétravail. Et donc, aujourd'hui, il y a une France désirable, une France instagrammable, et puis il y a une France de l'ombre, une France backstage. Et on voit bien que cette redistribution des cartes, s'explique par la montée en puissance de la consommation, du tourisme et des loisirs.
Alors effectivement, vous dites que le territoire français s'est réorganisé en fonction des choix de résidence des Français, mais aussi de l'attractivité des régions. Certaines restent dans l'ombre, d'autres près de la lumière. On le voit à la télévision ou sur Instagram. Vous dites par exemple que la Californie française aujourd'hui, ça n'est plus la Côte d'Azur, c'est le Sud-Ouest.
Alors c'est, et même plus précisément, c'est Biarritz et la Côte Basque. Hein, aujourd'hui, le
on pourrait dire le Cap Ferret aussi.
Qui alors est juste bon, voilà, juste un peu au-dessus. Voilà, on va avoir une définition un peu expansive du littoral basque. Et donc aujourd'hui, c'est la nouvelle Californie française. D'ailleurs, des magazines américains ont consacré des dossiers à cette californisation du littoral du Sud-Ouest. Et donc, the place to be, on l'a bien vu pendant le premier confinement. Pour beaucoup d'influenceurs qu'on pouvait suivre sur les réseaux sociaux, pour ceux qui étaient restés à Paris, eh bien c'était Biarritz et la Côte Basque, et non plus Saint-Tropez ou le Luberon.
Vous dites d'ailleurs que le train, le Paris-Biarritz, c'est le train des influenceurs.
Alors voilà, donc c'est la formule de mon co-auteur Jean-Laurent Casselli qui revient sur cette petite anecdote où il y a une panne d'un TGV qui remontait de Biarritz, et que toute la France en a entendu parler, puisque beaucoup de journalistes étaient dans ce fameux train qui remontait des vacances.
Voilà, si on remonte à 40 ou 50 ans, il serait revenu de Nice, de Cannes ou de
Luberon, ou de Gordes. Voilà.
Voilà. La banlieue elle-même est partagée entre deux tendances, hein, la ghettoisation ou la boboïsation.
Voilà, alors là, il y a une logique de distance au cœur de la métropole. Si on prend l'exemple parisien, on voit très clairement que la petite couronne est en voie de gentrification, avec une hausse des prix de l'immobilier, avec ce qu'on appelait la lutte des places, des ménages qui ne peuvent plus se loger dans Paris et qui se reportent sur Montreuil, sur Pantin, ou autre, et la physionomie de ces quartiers change petit à petit. On voit apparaître des commerces spécifiquement dédiés à ce public. Alors j'ai en tête un article du Parisien qui prenait l'exemple de Saint-Ouen, où il y avait une bataille pour avoir un Picard, et en disant si on a le magasin Picard, c'est qu'on est passé dans la catégorie des banlieues fréquentables. Et puis il y a une banlieue qui est toujours plus reléguée, où l'islamisme est très imprégné, où il y a aussi des trafics, où il y a des difficultés sociales. Et si cette banlieue-là dispose d'un pouvoir culturel, notamment avec la musique, on voit que beaucoup d'artistes viennent de ces quartiers, en termes de stratégie ou de hiérarchie résidentielle, ils sont toujours quand même en bas de l'échelle.
Mais c'est très intéressant, vous m'y faites penser, parce qu'on pourrait dire que le département le plus pauvre de France, le 93, a eu beaucoup plus d'influence sur le département le plus riche, le 92, que l'inverse, par le rap, par le cinéma, par le soft power du 93 est énorme. Alors, celui du 92 est réduit à rien.
Oui, alors, mais il y a un power tout court dans le 92, hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très fortunés, il y a des entreprises très importantes, y résident beaucoup de cadres, professions dirigeantes. Mais effectivement, la banlieue aujourd'hui a un imaginaire qui s'exporte, mais pas au point de devenir attractif en termes de lieu de résidence.
Mais ce qui a bouleversé nos paysages, on va en parler dans un instant. On fait une pause, Jérôme Fourquet, on se retrouve juste après.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Dans La France sous nos yeux, Jérôme Fourquet, l'auteur de L'Archipel français, nous décrit un pays qui s'est recomposé sous nos yeux depuis une quarantaine d'années. Les paysages, ces dernières décennies, ce sont les lotissements pavillonnaires qui sont arrivés, qui se sont installés. La maison individuelle avec jardin, c'est l'idéal des Français. Ça représente 56% du parc de logements. Ce que vous appelez le mode de vie plaza majoritaire, en référence à Stéphane Plaza, en référence à la fois à l'agent immobilier et l'animateur de télévision.
Oui, effectivement. Alors, on a écrit ça avant que la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, nous explique que le modèle du pavillon avec jardin était une impasse sociale, économique et écologique.
Elle n'est pas la seule. Hein. Il y a des livres entiers qui ont été écrits sur le sujet.
Sauf que c'est ça. L'idéal français par excellence, alors qui s'inspire sans doute de l'idéal américain, les fameuses suburbs. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce modèle plaza majoritaire, en fait, il se décline pour toutes les gammes de revenus. On peut avoir le petit pavillon ou la maison un peu plus cossue, éventuellement avec piscine. La France est le deuxième pays au monde où il y a le plus de piscines individuelles après les États-Unis. Et on voit que la force d'attraction de ce modèle de la maison individuelle, est vraiment partagée dans la grande majorité de la population. Et on voit, par exemple, arriver dans certains quartiers pavillonnaires maintenant, en périphérie des grandes agglomérations, des familles issues de l'immigration qui, à bas bruit, entament leur parcours d'ascension résidentielle et, comme le reste de la population française, communient dans ce modèle plaza majoritaire.
Et les transformations sociales qui sont intervenues alors, au cours de ces mêmes décennies, les classes moyennes n'ont pas disparu, dites-vous. Vous décrivez un processus de bipolarisation à la fois par le haut et par le bas. Vous pouvez nous expliquer en deux mots cet effet sablier ?
Alors, on a toujours une classe moyenne importante en France parce qu'on est le pays qui redistribue le plus. Il y a des amortisseurs sociaux qui sont très puissants. Mais quand on s'intéresse, et c'est ce qu'on a fait, à la consommation, au mode de vie, on voit justement cet effet sablier avec ce qu'on a appelé un phénomène de démoyennisation par le bas. Une partie des catégories, le bas de la classe moyenne et des catégories populaires décroche et s'est mis en place pour eux ce qu'on appelait un marché secondaire avec le hard discount, avec des offres de voitures calibrées type Dacia pour des petits budgets, avec une économie de la débrouille, l'explosion du chiffre d'affaires de la Française des Jeux, parce qu'il faut compléter le budget.
Ou le bon coin.
Ou le bon coin, tout à fait. Donc, on reste dans le modèle de consommation majoritaire, mais adapté, un peu seconde main. Voilà. Et donc, c'est un symptôme de décrochage. Et pour nous, c'était le terreau de la crise des Gilets jaunes. Et puis, par le haut, il y a un phénomène de premiumisation, avec des offres de plus en plus calibrées, mais assez chères, pour le haut de cette classe moyenne. Et ce n'est pas un hasard si un élément tout à fait iconique des années 70 en France, l'hypermarché, est aujourd'hui en crise, parce que on trouvait tout sous le même toit, mais pour tout le monde. Et aujourd'hui, eh bien, d'un côté, il y a le Lidl, il y a le hard discount, et de l'autre, il y a le Monoprix, et puis il y aura même une démoyennisation par le côté avec la Biocoop ou des magasins éthiques. Et donc on voit bien que ce modèle de consommation massifié et standardisé est en crise parce qu'il est tiraillé de tous les côtés.
Au fond, on a tous les mêmes goûts, mais on ne va pas les satisfaire dans les mêmes magasins.
Typiquement, voilà. on est là-dessus. Voilà,
et vous dites que la France du pain, par exemple, est coupée en deux.
Voilà, donc c'est l'expression de Jean-Laurent Casselli, mon co-auteur, qui constate que jusque dans les années 2000, le pain avait bien résisté à cet effet de ciseau et qu'aujourd'hui, ce n'est plus vrai. On a dans les centres-villes des boulangeries très pointues, sans gluten, avec des artisans boulangers qui signent leur œuvre. Et puis, on a ce qu'il a appelé les boulangeries de rond-point, de périphérie, avec des enseignes comme Marie Blacher ou Ange, alors qu'ils ne parlent pas forcément à un public qui serait très métropolitain, mais qui ont colonisé toutes ces périphéries, on y va en voiture et ça fait partie du décor de ces fameuses zones commerciales qui, elles aussi, ont considérablement reconfiguré nos paysages.
Beaucoup de nouveaux métiers sont apparus depuis 40 ans, dans le service à la personne, parmi les aides-soignants, le nettoyage, le gardiennage, les agents de sécurité. Au fond, c'est le nouveau prolétariat. Hein. Il ne travaille plus dans les usines, il est au contact des clients.
Voilà, alors c'est ce qu'on a appelé des catégories populaires orientées clients. Et la question aujourd'hui, la grande question sociale, c'est qui sert qui. Et on a évoqué le larbinat des applis, hein, ces gens qui travaillent pour le dernier kilomètre, aller vous apporter les courses, faire les courses à votre place. On parle également de tout ce secteur de la logistique. Hein, le cariste dans l'entrepôt Amazon a remplacé l'ouvrier des chaînes de montage. Et donc on a toute une nouvelle classe, deux nouvelles catégories populaires, dont encore une fois les visages sont apparus sur les ronds-points avec, vous savez, on parle aussi beaucoup de la silver economy, toute l'économie du vieillissement. Eh bien, on a un prolétariat de la silver economy, ce sont toutes ces aides-soignantes, ces aides à la personne. Et c'est pas un hasard si dans le dernier film de Ken Loach, hein, qui suit de manière attentive les évolutions de la classe ouvrière britannique, le couple de personnages principaux est composé d'un livreur freelance et puis d'une assistante à domicile.
Vous signalez également que notre pays s'est considérablement américanisé depuis les années 80. C'est arrivé d'une façon spectaculaire et c'est tellement gros que l'on ne le voit plus. C'est-à-dire que dans les années 60, on luttait contre ça. Hein. Mais aujourd'hui, la société française s'en trouve changée en profondeur. On s'habille américain, on mange américain, on parle américain, on pense américain, et même on croit en Dieu à la façon américaine avec l'arrivée massive des chrétiens évangéliques, que personne ne voit.
Tout à fait. Et donc, il faut le déclenchement de la pandémie à Mulhouse avec le fameux cluster numéro 1 de ce rassemblement évangélique pour qu'on découvre l'ampleur de cet essor du courant évangélique. Ce qu'on a appelé dans le livre la couche Yankee, là, qui s'est déposée de manière très épaisse sur notre société, qui imprime tous nos tissus. On prend différentes statistiques et on montre que, par exemple, depuis 1986, la majorité des films qui font plus d'un million d'entrées en France au cinéma sont systématiquement américains. On regarde aussi l'essor phénoménal de McDonald's, une centaine de restaurants au milieu des années 80.
Et pas seulement McDonald's, mais il y a toutes les franchises.
Voilà, qui ont explosé. Et vous parliez de ce combat idéologique des années 60. Le Parti communiste était en pointe contre ce que Aragon appelait la civilisation des frigidaires, parce qu'il fallait du coca à mettre dans les frigidaires. Et on s'est amusé à regarder les adresses d'un certain nombre d'enseignes McDonald's dans l'ancienne banlieue rouge. Et donc, vous avez des McDo à Avenue Lénine, boulevard Torres, etc., etc. Donc, la bataille culturelle a été remportée haut la main par la civilisation du frigidaire.
Oui, sauf la jeune génération, elle est de plus en plus influencée par l'Asie, le Japon en particulier. Ça aussi, c'est dans votre livre. Merci Jérôme Fourquet.
Merci à vous
d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. On se retrouve, je rappelle le titre, hein, La France sous nos yeux, ça vient de paraître au Seuil. On se retrouve dans un instant avec le grand historien des couleurs et des animaux, Michel Pastoureau.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Michel Pastoureau.
Bonjour.
C'est toujours une joie de vous recevoir. Vous êtes notre historien des couleurs, mais aussi des animaux. Et après le loup et le taureau, voici Le Corbeau, une histoire culturelle qui paraît aux éditions du Seuil. Il fait lui aussi, dites-vous, partie du bestiaire central à partir duquel les Européens ont tissé un vaste réseau de mythes, de légendes, de symboles et de rêves. L'ours, le sanglier, le cerf, le renard, l'aigle et le serpent en font également partie. Mais le corbeau est dans le trio de tête avec l'ours et le loup. Pourquoi le corbeau nous parle-t-il à ce point à l'imagination ?
Probablement parce qu'il nous intrigue, qu'il nous fait peur, qu'il a l'impression de savoir tout, et notamment de nous connaître mieux que nous ne connaissons. Donc c'est un animal qui à la fois nous fascine et nous fait peur, et ce depuis des temps extrêmement anciens.
Il faut dire, vous le dites dans votre livre, qu'autrefois le corbeau mesurait près de 80 cm de long et son poids dépassait largement les 2 kg. Il était beaucoup plus impressionnant que le grand corbeau actuel.
Voilà, le grand corbeau actuel n'est plus présent partout. En France, il est dans les régions de montagne et quelquefois sur les côtes et les falaises bretonnes. Mais dans les périodes anciennes, on le rencontrait à peu près partout en Europe et il avait une taille beaucoup plus grande. Il était plus lourd, son envergure était plus large. Donc quand on examine les ossements qui nous ont été conservés, on s'aperçoit que c'était un oiseau d'une envergure beaucoup plus grande que la nôtre, celle que nous connaissons en tout cas.
Et c'était messager des dieux au départ, hein. Vous dites, pendant l'Antiquité, le corbeau, il est plutôt bien vu à ce moment-là.
Voilà, c'est un oiseau qui est vénéré dans tout l'hémisphère nord pendant l'Antiquité. Il est bien vu, c'est le messager des dieux, c'est l'attribut des dieux. Parfois, c'est le créateur du monde, c'est un démiurge. Il porte les nouvelles, il parcourt le monde pour observer ce qui se passe et il le rapporte à telle ou telle divinité, chez les Celtes, chez les Germains, chez les Slaves, mais aussi chez les peuples de Sibérie ou d'Amérique du Nord.
Dans Game of Thrones, la série, il y a un personnage surnommé Bran, Bran the Broken, parce qu'il est estropié, qui finira d'ailleurs par s'asseoir sur le trône de fer. Il est surnommé la corneille à trois yeux. Mais Bran, dites-vous, c'est la corneille ou le corbeau en gaélique. Et comme jadis, on croyait que le corbeau vivait 2592 ans et que la corneille à trois yeux dans Game of Thrones, c'est celui qui sait tout, qui se souvient de tout. Je me suis dit, après vous avoir lu, mais ils ont bien bossé, les auteurs de Game of Thrones.
Ah oui, bien sûr. Ils reprennent des légendes anciennes, des mythes qui viennent du fond des âges. Et un certain nombre de permanences sont encore là, dans des séries télévisées d'aujourd'hui. Notamment l'idée que le corbeau voit tout, sait tout, donc trois yeux, c'est tout à fait ce qu'il faut pour se faire. Moi, je pratique l'histoire culturelle, c'est-à-dire un type d'histoire qui ne sépare pas fortement la corneille et le corbeau.
Ni la fiction et la réalité,
d'ailleurs. Ni la fiction, ni la réalité. D'ailleurs, pour l'historien, la fiction, c'est une part de la réalité. Ça existe, l'imaginaire. Ça n'est pas le contraire de la réalité. C'est une réalité d'un type particulier.
Pourquoi est-il devenu noir, le corbeau ?
Alors, il y a un certain nombre de légendes qui expliquent dans telle ou telle mythologie que c'est une punition. Dans la mythologie grecque, c'est peut-être l'histoire la plus célèbre, Apollon avait chargé un corbeau, qui était blanc, comme tous ses congénères, de surveiller une mortelle dont Apollon était très épris. Mais celle-ci lui a préféré un humain et a trompé le dieu. Le dieu est devenu extrêmement en colère. Il a puni les deux amants en les mettant à mort. Et il a puni le corbeau qui avait mal rempli son rôle de surveillant, en quelque sorte, en transformant son plumage, qui était blanc, il l'a fait noir. Apollon s'est vengé.
Sacré dieu grec, hein. À partir du bas Moyen-Âge, l'Église va déclarer la guerre au corbeau, ce qui paraît logique, hein. Si c'était le messager des dieux païens, il fallait qu'il paye.
Voilà, c'est ça. L'oiseau est trop vénéré, et comme tous les animaux partent trop vénérés, le christianisme part en guerre contre eux. C'est le cas de l'ours, c'est le cas du corbeau. Ce sont les deux vedettes de ces cultes païens qui survivent longtemps, hein, pendant le premier millénaire de notre ère en Europe, c'est finalement dans l'Europe du Nord. Donc il faut les faire descendre de leur trône, et le corbeau est victime de la haine de l'Église qui s'appuie sur quelques épisodes bibliques pour le diaboliser. Elle frappe très très fort. On tue un grand nombre de corbeaux, on en fait un attribut du diable, on raconte toutes sortes d'histoires qui mettent en scène tous les vices du corbeau. Il est nécrophage, il est mortifère, il est charognard, il est impur et impie à différents titres. L'Église frappe très fort contre le corbeau.
Il est aussi vaniteux, voleur et stupide, au fond comme dans Le Corbeau et le Renard, la célèbre fable de La Fontaine, qui est très méchante avec le corbeau et qui figurait déjà dans le roman de Renard au Moyen-Âge.
Voilà,
et même histoire. Hein.
C'est la même histoire racontée par le roman de Renard. Elle vient de loin, d'ailleurs elle est déjà dans le corpus des fables d'Ésope, un certain nombre de siècles avant notre ère, 6 ou 7 siècles avant notre ère. Pour le christianisme, c'est une soupape. Ça contribue à désacraliser le corbeau, à le ridiculiser. Mais il y a un certain nombre d'auteurs qui corrigent un peu la fable et qui soulignent que, en fait, le fromage était empoisonné et le corbeau le savait très bien. C'est pour ça qu'il l'a abandonné au renard. On trouve encore cette explication en plein XVIIe siècle.
Mais comment expliquez-vous, Michel Pastoureau, que Buffon, qui est un naturaliste génial, pourquoi Buffon a fait du corbeau un portrait si peu flatteur dans son histoire naturelle, qui sera un best-seller du XVIIIe puis du XIXe siècle ?
Voilà, malgré toute l'amitié que j'ai pour Buffon, que j'admire, c'est sans doute le plus grand prosateur français de tous les temps. Ah oui, là, c'est vraiment une très grande plume. D'ailleurs, on le reconnaît de son siècle. Dès son siècle, on l'appelle la grande plume du XVIIIe siècle. Et aujourd'hui, je crois que personne n'a jamais écrit aussi bien le français que Buffon, spécialement dans l'histoire naturelle. Mais alors, Buffon a la haine des animaux qu'il n'arrive pas à classer dans sa propre classification. Alors, le cochon, par exemple, qui a le sabot fendu mais qui ne rumine pas, il est terrible contre le cochon. Et le corbeau, qui est un rapace sans être un rapace. Certains rapaces ont peur du corbeau, il ne sait pas quoi en faire. Donc, il a une aversion totale pour cet oiseau. Et ceci dit, il est de son temps, donc il rapporte tout ce qu'on dit dans La Vie des campagnes contre cet oiseau. Et les quelques pages qu'il écrit sur le corbeau sont absolument terrifiantes. On n'est jamais allé aussi loin que Buffon, je crois.
Il y a encore beaucoup de choses à raconter sur le corbeau, Michel Pastoureau. On fait une pause, on se retrouve juste après.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes ce matin avec Michel Pastoureau qui publie Le Corbeau, une histoire culturelle. C'est le 3e volume après Le Loup et le Taureau, à paraître aux éditions du Seuil. Le Corbeau... Pourquoi l'avez-vous toujours aimé d'ailleurs ? Parce que vous le dites dans ce livre, vous le citez depuis extrêmement longtemps, le corbeau. Il vous intéresse cet oiseau ?
Oui, il m'intéresse en tant qu'historien. Évidemment, Les documents d'histoire sont toujours plus bavards sur les animaux négatifs que sur les animaux positifs, et pour l'histoire des hommes, sur le mal que sur le bien. C'est toujours comme ça, on a plus de documents. Mais ça remonte chez moi plus lointain, plus lointainement. Quand j'étais enfant, dans mes campagnes normandes, j'étais déjà fasciné par cet oiseau qui était toujours là, près de la maison, qui regardait les activités humaines, qui semblait nous observer, nous connaître. Je n'en avais pas tellement peur. Peut-être que la plupart du temps, c'était d'ailleurs des corneilles et pas des corbeaux. En tout cas, c'est un oiseau qui m'attire depuis très longtemps. Et donc, je porte ce livre, en effet, en tant qu'historien, depuis presque un demi-siècle. Donc, je suis content d'en être venu à vous.
Au 19e siècle, racontez-vous, il devient l'oiseau tutélaire des romantiques, quand le noir devient de plus en plus envahissant. Au fond, il est la seule référence du noir. Il symbolise cette couleur depuis le départ, le corbeau.
Voilà, oui, il y a un certain nombre de faits de langue qui expliquent qu'on est noir comme de la poix, noir comme du charbon, noir comme un four, mais le cas le plus fréquent, c'est noir comme corbeau. Ça existe dans toutes les langues, ça vient de très très loin, c'est l'archétype de la couleur noire, et par là même, l'oiseau est associé à tout ce qui est noir et notamment ce qui est pris en mauvaise part. Mais l'époque romantique, c'est la mélancolie qui est noire, la bile noire, et elle se revalorise quelque peu, la mélancolie à l'époque romantique, et le corbeau en profite un peu. C'est vraiment l'emblème du romantisme, du second romantisme.
Mais c'est aussi le messager de la mort avec le romantisme.
Voilà, alors la mort sous tous ses aspects, la mort épouvantable, mais aussi la mort dans ce qu'elle a d'attirant ou de valorisant chez des poètes qui ressentent, comme dit Hugo, l'ineffable bonheur d'être triste.
Oui, ou l'envie de se suicider, qui est très à la mode.
Voilà, c'est très à la mode à partir des années 1830, jusque fort avant dans le 19e siècle. Donc un certain nombre d'auteurs, français et étrangers, ont voué une certaine admiration au corbeau.
Le romantisme, au fond, est au 19e siècle un peu ce que le rock est au 20e. C'est-à-dire que ça, véritablement, il y a du romantisme partout, dans la littérature, dans la peinture, dans la musique. Et avec le romantisme finissant, il y a un romantisme noir.
Il y a un romantisme noir, voilà, dans la seconde moitié du 19e siècle, qui se traduit de différentes façons. Chez les poètes, c'est assez classique, mais ça se lit aussi au théâtre, ça se lit dans la gravure, dans la peinture, dans la musique, comme vous venez de le dire. Ça dure même jusque les premières années du 20e siècle. Et ça contribue naturellement à mettre en scène un assez grand nombre de corbeaux. Les peintres le font jusqu'à Van Gogh, et même au-delà, jusqu'à la naissance de l'art abstrait.
Mais vous dites aussi que c'est l'animal le plus souvent mentionné dans les pièces de Shakespeare. Et Shakespeare, c'était bien avant le romantisme.
Voilà, c'est avant. Shakespeare parle souvent des animaux. Il met en scène tout un bestiaire et c'est intéressant de voir quels sont les animaux les plus fréquemment sollicités. Le corbeau est du nombre. C'est l'oiseau qu'il cite le plus souvent. Naturellement, la couleur noire est toujours là. En plus, Shakespeare utilise deux mots pour dire noir en anglais. Il y a encore deux mots. Il y a black qui est resté, bien sûr, c'est le noir brillant. Il y a schwarz, comme le schwarz allemand, qui a disparu au XVIIe siècle, mais qui est le noir inquiétant. Et le corbeau, il est plutôt de ce côté-là.
Il y a cette photo célèbre d'Alfred Hitchcock avec un corbeau sur le bras pour la promo des oiseaux, l'un de ses films les plus célèbres. Cette photo figure sur le bandeau de votre livre, Michel Pastoureau. Avec les oiseaux, on est à l'apogée de la terreur que nous ont inspiré les corbeaux, puisqu'ils nous attaquent sans raison dans le film. Et ils ne sont pas les seuls, mais ils sont les plus nombreux dans le film.
Oui, il y a aussi des goélands et quelques autres oiseaux, mais ce sont les corbeaux qui dominent. Et il y a cette scène absolument terrifiante qui est la sortie de l'école où les enfants sont attaqués par des corbeaux. C'est une des scènes les plus effroyables de toute l'histoire du cinéma. Aujourd'hui, évidemment, on voit un peu mieux les trucages que dans les années 60. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que le film d'Hitchcock est tiré d'une nouvelle de Daphné du Maurier. Bird, c'est le même titre que le film, dans le titre anglais. Et la nouvelle est encore plus effrayante que le film parce que aucune explication n'est donnée, c'est une nouvelle assez courte, sur ces attaques de corbeaux sur des populations.
Dans le film non plus, remarquez.
Dans le film non plus, d'ailleurs, ça se finit, on ne sait pas très bien pourquoi les oiseaux ont attaqué. C'est encore plus fort comme ça.
Le Corbeau est très présent au cinéma. Il y a aussi Le Corbeau, le film d'Henri-Georges Clouzot. Le Corbeau, c'est celui qui envoie des lettres anonymes. On a longtemps cru d'ailleurs que ça dotait de ce film, de surnommer ceux qui nous envoient des lettres anonymes des corbeaux. Vous dites que non, c'était antérieur.
Non, le lexique montre que le sens dérivé de corbeau, qui signifie délateur, auteur de lettres anonymes, c'est bien plus ancien et il est probablement hérité de la vénerie, du vocabulaire de la chasse. Il est attesté, ce sens-là, au XIVe siècle, dans la chasse au renard. Quand les veneurs ont perdu la piste du renard, ils n'ont qu'à lever les yeux parce que en haut, le corbeau suit la chasse qui se passe en bas et, soit volontairement, soit malgré lui, il dénonce l'endroit où se trouve le renard. Donc ce sens est vraiment très très ancien. Clouzot n'a rien inventé.
Sûrement volontairement d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, et c'est la revanche du corbeau, on sait depuis peu, on a découvert sa grande intelligence, très supérieure à celle des grands singes, son cerveau est énorme, bien plus gros que le nôtre proportionnellement. Peut-être donc est-ce volontaire ?
Oui, toutes les enquêtes récentes sur l'intelligence animale et les capacités cognitives montrent que le corbeau est probablement le plus intelligent de tous les animaux, du moins vu par l'être humain, bien sûr. Pour certains tests, il est bien avant les grands singes. Ce n'est pas un problème de taille du cerveau, c'est un problème de neurones, de densité des neurones au centimètre cube, si je puis dire.
Et là, c'est pour ça qu'on le déteste depuis le début.
Probablement,
on s'en méfiait parce qu'on savait que c'était un rival.
Voilà, et les auteurs anciens, Aristote et surtout Pline, soulignent déjà que le corbeau est le plus intelligent de tous les animaux. Donc les éthologues d'aujourd'hui n'ont rien inventé, mais confirment science à l'appui ce qu'on savait depuis très longtemps.
Alors, ce que vous m'avez révélé, en tout cas à moi, dans ce livre, c'est qu'un corbeau s'est identifié dans un groupe, un homme qu'il a vu plusieurs mois auparavant, et il se souvient si celui-ci est un ami ou un ennemi. Ça fait peur, ça.
Oui, le corbeau a une très très grande mémoire pour reconnaître ami de l'ennemi, pour se souvenir de l'endroit où il a caché de la nourriture. Il sait se moquer des autres oiseaux.
Oui, il a de l'humour.
Il semble qu'il ait de l'humour. Il cache de la nourriture, fait semblant de cacher de la nourriture. Il observe comment les autres oiseaux viennent chercher cette nourriture. Il n'y a rien. Et devant leur déception, il semble se moquer. Il en tire un certain plaisir. Je crois qu'on n'a pas fini d'entendre parler de ses capacités cognitives du corbeau.
Et on n'a pas fini de l'observer, donc, avec un mélange de frayeur.
De fascination et d'inquiétude, oui.
Exactement. Merci, Michel Pastoureau. Le corbeau, une histoire culturelle. Ça vient de paraître aux éditions du Seuil. On se retrouve dans un instant avec Sophie Fontanelle.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Sophie Fontanelle.
Bonjour.
Vous publiez Capital de la douceur chez Segers, un livre sur le corps, sur le vôtre en particulier, qui ne tombe jamais dans le narcissisme, une sacrée prouesse, notamment pour une Instagrammeuse. Comment avez-vous fait ?
Oh, j'ai tout épuisé mes tickets narcissiques sur Instagram. Je sais pas comment. Je suis tellement, si je puis dire, hein, bon, je veux pas me vanter, mais populaire sur les réseaux sociaux, sur Instagram, que j'ai été obligée de m'équilibrer. Et donc ces questions-là, je me les suis posées il y a bien longtemps. Voilà.
Un livre que vous avez écrit en vers. Vous cherchez vraiment la difficulté. Il y a plein de lecteurs, ça pourrait rebuter, hein, les vers. Le dernier best-seller écrit en vers, ça doit être l'Iliade d'Homère. De nos jours, on conseille plutôt un langage simple, pas trop formel, qui fluidifie la lecture, un peu comme dans 50 nuances de Grey.
Oui, alors, la poésie, je pense que nous en avons un immense besoin et que nous avons peur un peu de la poésie. Et en même temps, on adore ça. Et dès que dans une émission, on cite la phrase d'un poète, on dit « Ah, tout d'un coup, il y a de l'air ». Et voilà la raison, en fait, je pense, pour laquelle j'ai écrit en vers. C'est que quand j'ai commencé à écrire, on n'avait pas d'air. Et je pense qu'on a besoin d'air déjà dans notre vie, mais on en a besoin dans notre pensée. Et c'est tellement, on en manque tellement, et tout est tellement en train de se crisper, que la poésie, avec son côté comme ça, majestueux, permet d'avoir cet air.
Vous êtes célèbre pour votre humour, vous auriez pu écrire des livres comiques, Sophie Fontanelle, ça aurait été facile pour vous, presque naturel. Qu'est-ce qui vous a retenu ?
ben c'est pareil, cette histoire de ticket, c'est que je suis drôle dans la vie, quoi. Donc pour moi la drôlerie n'est pareil, je l'interroge. Pourquoi j'ai besoin de cette drôlerie? Ben c'est parce que je suis extrêmement sensible et je pense que c'est mon âme poétique en fait qui fabrique cette drôlerie. Et si on regarde des comiques qu'on adore, hein, de Buster Keaton, de Charlie Chaplin, etc. Enfin des gens, des géants. Moi je suis une petite crevette à côté. Ben on voit bien qu'en fait toujours il y a une relation à la poésie et leur drôlerie est liée à la poésie. Ben c'est ce que je fais, mais je le fais de manière, c'est un monde moderne, donc moi je fais pas des films, donc il y a un coup je suis sur Instagram, un coup j'écris une critique de mode et puis un coup je fais un livre.
Mais voilà. Vous avez écrit des articles qui étaient absolument hilarants, vous avez fait Fonel dans Elle qui était une bande dessinée qui était hilarante aussi. Je vous imagine bien en train d'écrire un livre et de vous dire tiens là je pourrais dire ça, ce serait très très drôle, mais je vais pas le faire.
Ben je trouve qu'aujourd'hui bon, évidemment, j'adore ça, je suis des vidéos de gens très drôles, etc. Je trouve qu'aujourd'hui, pour moi, ça n'est pas la chose dont j'ai le plus besoin. Ce n'est pas de rire. Alors que j'adore ça, hein, attention, hein, je vais pas bouder mon plaisir. J'ai besoin qu'on me mette dans quelque chose de... Qu'on me dise quelque chose d'une élévation de l'être humain. J'ai besoin de ça, plus que de toute autre chose, parce que nous sommes dans un monde qui est beaucoup trop violent. Donc j'ai pour le moment, c'est pas cette petite sonnette que je tire.
Vous avez besoin de douceur. On va y venir à la douceur. Mais d'abord, vous avez été directrice de la mode du magazine Elle. Vous êtes encore critique de mode à l'Obs. Vous adorez la mode. Vous êtes une véritable influenceuse dans ce domaine. Et pourtant, vous n'avez hérité aucune des étiquettes dont on affuble généralement les gens de la mode. Il ne viendrait à l'idée de personne de vous reprocher d'être snob ou superficiel. À quoi vous le devez ?
Je pense au fait que je réfléchis. C'est un truc tout bête.
Et pas les autres gens de la mode.
Je sais pas comment ils réfléchissent, mais moi je me demande tout le temps. D'abord, moi je dis pas, bien sûr c'est la mode, j'adore ce mot, mais pour moi c'est vraiment les habits. Qu'est-ce que ça veut dire un habit dans la vie de quelqu'un? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Est-ce que ça a un sens? À quoi ça nous sert? Donc quand on se pose toutes ces questions, qui peuvent d'ailleurs être posées avec beaucoup beaucoup de drôlerie, on aboutit à ce que tout simplement ce soit moins vide que ce truc mercantile de fashion victim, must have et tous ces mots crétins qu'on voit dont les magazines sont truffés.
Alors en dépit de votre amour de la mode qui aurait pu vous discréditer à jamais, hein, vous en êtes bien conscience, vous incarnez aujourd'hui une forme de sagesse, alors sans doute grâce à vos livres, hein, une certaine élégance morale. Vous êtes carrément devenu arbitre des élégances, mais des élégances morales. C'était le but que vous poursuiviez ou c'est arrivé à l'improviste?
Je pense que c'est le but initial. Tout revient au début, là. C'est-à-dire que mon grand-père était poète. Ma famille étrangère, arménienne, voulait arriver en France et voulait deux choses. Bien s'habiller, pour être comme Coco Chanel, et dire des poésies. Et ils ont appris le français en disant des poésies. Et ces deux choses se sont trouvées réunies dans mon être, mais ça a mis longtemps. J'ai 59 ans.
Et quand vous dites « j'arrête de me teindre les cheveux », tout le monde observe et se dit bah, « tiens, il y a peut-être une idée là ».
Mais parce qu'en fait, on dit que maintenant l'élégance, c'est comme si c'était quelque chose d'une classe sociale. Mais c'est faux. L'élégance est un... Donc si c'est une classe sociale, c'est une classe sociale aussi qu'on fantasme et qu'on rêve et qui est en nous. C'est un monde qu'on rêve pour s'améliorer. Moi, j'ai été élevée comme ça. Donc, on a besoin d'élégance. Et je pense que si aujourd'hui, j'ai un petit écho, et par les mots, comme vous dites, et par l'image, c'est parce que cette élégance-là, ben, on a besoin de gens qui nous rappellent que c'est quelque chose qui aide à vivre.
Pour la sortie de Capitale de la douceur, vous avez posé nu dans Elle. À une autre que vous, on aurait fait toutes sortes de procès en opportunisme, en antiféminisme. À vous, non. On salue votre authenticité et votre courage.
Je suis passée sous la pluie, sous le radar. Je crois que ça vient, encore une fois, de la raison pour laquelle je l'ai fait. C'est que je crois que j'ai écrit un livre sur quelqu'un qui se retrouve nu sur une île. Et au moment d'en parler, qu'est-ce que vous faites? Vous laissez les gens raconter? Voilà, elle a été nue sur une île et elle a raconté comment est-ce qu'elle avait découvert des choses de notre fragilité, de notre vulnérabilité. Vous laissez les gens en parler ou bien vous prenez, vous, la parole avec le corps des écrivains, c'est très important. On le voit plus maintenant, il est dans les salons du livre caché avec par la table, et c'est toujours coupé. Alors que le corps de Cocteau, le corps de Camus, on le voit. Donc je pense qu'un écrivain, il peut aussi s'exprimer avec son corps.
Capitale de la douceur se passe à l'île du Levant, paradis naturiste depuis bientôt un siècle. Vous vous êtes rendu pour la première fois, je crois, pendant l'été 2020. Ça a été une révélation pour vous?
Bah, ça a été plus qu'une révélation, parce que j'ai eu peur. C'est-à-dire que quand j'ai vu que les gens, que quelqu'un m'accueillait nu sur le port, ce qui est interdit, mais la personne avait voulu le faire quand même, je me suis dit, ça va, qu'est-ce que, moi, mon corps, je vais pas pouvoir le montrer. Parce que quand on montre son corps, et c'est toute la beauté de ça, et pourquoi est-ce qu'on est lié à la douceur, on peut se faire très mal. D'abord, on peut vous faire mal. D'abord en vous regardant, en vous jugeant. Vous pouvez vous faire mal en vous coupant dans les rochers. Il y a une capitainerie là-bas qui est un stock de pansements mémorable. On est dans la vulnérabilité alors que c'est 5% de l'île, tout le reste est une base militaire. Donc en fait, on est entouré d'endroits où on teste les missiles. Et ben c'est ça notre vie en fait. C'est ça que raconte ce livre. Nous sommes 5% de douceur dans 95% de violence.
Mais la douceur provient de la nudité.
Moi je crois que les sociétés qui interdisent la nudité sont comme par hasard extrêmement violentes. Et attention, il y a une manière très très crue de promouvoir la nudité, qui est d'ailleurs un peu notre société, où si vous voulez voir des gens nus, c'est facile, vous allez sur YouPorn, vous allez en voir. Mais vous allez les voir dans un certain genre. Moi je pense que la nudité est quelque chose de magistral, qui en impose, et quelque chose qui calme en fait. C'est quelque chose qui nous calme tous. C'est comme ça, quand on va se faire masser, c'est pas parce qu'on nous touche qu'on est calmé. C'est d'abord en premier parce qu'on est nu.
Mais la nudité, c'est le contraire de la mode.
Oui, ça c'est...
C'est le recto et le verso, si l'on peut dire.
Les vêtements servent à nous protéger, à nous embellir. Et c'est pour ça que ma stupeur, ça a été de découvrir que le corps nu des hommes et des femmes, d'ailleurs assez semblables quand on s'éloigne et qu'on se met un petit peu dans l'eau et qu'on les regarde dans la crique, ben le corps des hommes et des femmes est assez semblable, extrêmement doux. Et cette douceur, elle fait réfléchir. Voilà,
Mais vous racontez aussi que ce séjour a réveillé en vous une douleur ancienne. C'est aussi...
Je suis allée là-bas rencontrer la douceur. Enfin non, j'ai trouvé la douceur parce que tout d'un coup j'ai trouvé ça fantastique et doux. Et ça m'a permis de me souvenir que dans ma vie, oui, c'est arrivé. Écoutez, à tellement de femmes et aussi en moins grand nombre d'hommes. Mais voilà, j'ai vécu quelque chose de, dans mon cas, d'effroyablement violent. Et c'est pour ça que j'étais si heureuse de pouvoir me retrouver nue sans être menacée.
Merci Sophie Fontanelle d'être venue sur Europe 1 en direct ce matin. Capitale de la douceur, ça vient de paraître chez Segers.
Europe 1.
C'est arrivé demain et terminé. On se retrouve samedi prochain. Dans quelques instants, ce sera le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, présenté par Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia, qui est votre invitée?
Bonjour Frédéric. Notre invité pour le grand rendez-vous sera Fabien Roussel. Et pour l'interroger, je serai entourée de Nicolas Barré et Mathieu Boccoté.
Bonne émission.
Europe 1.